Chapitre 23. La piste jaune. Tout autour du chalet, la nuit était tombée. La lune se reflétait dans l'eau ridée du lac. Le vent agitait doucement la cime des grands pins. Les bois étaient peuplés de cris de la nuit. Hiboux, coucous et loups. Des cris nocturnes qui rassuraient plus qu'ils ne faisaient peur. Une forêt qui hurle la nuit est une forêt dont les animaux vivent encore. Un feu crépitait dans la cheminée du chalet. Les 13 enfants des deux expéditions réunies s'y reposaient, fatigués comme chaque soir après leur journée passée à explorer méthodiquement chaque mètre carré de la forêt, coloré au fur et à mesure sur la carte de Brasa. Solario avait avancé une chaise près de l'âtre pour mieux profiter de la lumière. À l'aide d'un couteau fin, l'enfant savant disséquait le ventre d'une poule d'eau ramassée dehors à la fin de l'après-midi.
« Agnel ?»
appela Solario.
« Agnel, viens voir quelque chose. »
Agnel se tenait avec un autre groupe d'enfants, tipis et châteaux mélangés, près de la fenêtre. Sur un lit de fougères, de la terre était étalée. De la terre mêlée à de la bave, des poils gris et des excréments. Noam se bouchait le nez pendant qu'Agnel, à l'aide d'une petite branche, examinait les différents éléments. Gulo-Gulo les avait trouvés près du lac supérieur, à moins de 100 mètres du chalet, dans la boue, comme si un animal y avait dormi toute la nuit. Un animal de grande taille, dont les empreintes de pattes ressemblaient à celles d'un loup.
« Agnel ?» demanda avec inquiétude Pépin. « C'est les traces d'un loup ? D'un loup normal ? Ou du loup ponéro ?»« Mais comment veux-tu que je le sache ?» répondit Agnel, agacé, tout en continuant de remuer la terre malodorante avec sa tige. « Tu crois que je sais reconnaître le caca du loup ponéro ?»«
Agnel !»
insista Solario à l'autre bout de la pièce.
« Agnel, viens voir s'il te plaît !»
Agnel délaissa Pépin pour s'approcher de la cheminée.
« Regarde !» précisa Solario. « Regarde dans le ventre de cet oiseau. C'est la première fois que je vois ça. »
Agnel se pencha alors que l'enfant du château écartait l'abdomen du volatile à l'aide de son couteau. De fines traces jaunes, très vives, presque fluorescentes, coloraient les parois de l'estomac de la poule d'eau.
« Enfin !» pensa Agnel. Il se trouvait face à la première trace visible de l'empoisonnement des oiseaux et de tous les autres animaux.
Avait-il découvert la source de la pollution? Il était persuadé, sans même avoir besoin de lui parler, que Solario partageait son analyse.
« Gulo, où as-tu trouvé cet oiseau ?»
demanda Solario.
« Près de la grande cascade. Je cherchais quelque chose de mangeable. Il était à moitié tombé dans l'eau, le bec dedans et les pattes dehors. »
Solario et Agnel dirigèrent tous les deux le regard vers la fenêtre. Ils ne distinguaient que les ombres inquiétantes de la nuit.
« Reposez-vous, » fit Solario en direction des enfants. « Dès demain matin, à peine le soleil levé, on ira chercher d'autres traces près du lac inférieur. »
Tandis que les autres enfants se couchaient, Solario et Agnel restèrent un long moment à scruter la nuit et les étoiles. Ils aimaient converser tous les deux. « Tu as vu ?» demanda enfin Agnel à son ami du château, tout en fixant le ciel clair.
« Bien entendu, il a disparu. Il n'y a plus de soleil de fer. »«
Tu vas rentrer alors ?» poursuivit Agnel. « Je suppose qu'ils ont besoin de toi au château. »«
Tout va bien au château, » assura doucement Solario.
« Tout va bien pour l'instant. C'est ici que je suis le plus utile, je le sens. Tout est lié. » Et nous avons une nouvelle quête désormais.
Quelle quête?
La forêt est aussi grande que la ville, plus grande même. Il y a donc plus de chances que le soleil de fer soit tombé ici, quelque part dans les arbres, plutôt que dans les rues de Paris.
La grande cascade à demi gelée formait une extraordinaire sculpture de glace. Certaines gouttes d'eau semblaient avoir été givrées par un mystérieux coup de baguette magique, formant de fantastiques stalactites blanches, alors que d'autres continuaient de pleuvoir en larmes froides dans le bassin d'eau transparent.
Les 13 enfants ne jetaient pourtant pas un regard à la cascade. Jour après jour, ils s'étaient habitués à ce spectacle magnifique. Tous se penchaient vers les berges du lac inférieur. Ils s'entassaient dans le petit chemin coincé entre la falaise d'où tombait la cascade et les rives de l'étang. 4 autres poules d'eau flottaient à la surface, couchées sur le côté. À l'aide de son beau, Solario, Cagnel et Suzette retenaient par la taille, essayaient de rapprocher les oiseaux de la rive pour les examiner, même s'ils savaient déjà ce qu'ils allaient trouver. Du bec des oiseaux s'échappait un fin filet jaune, très vif, presque fluorescent, qui se dispersait ensuite dans l'eau du lac. Semblable à de la peinture qu'on diluerait dans de l'eau, pensa Solario. Comme quand Donatello, dans le pavillon des singes, pour peindre un soleil en aquarelle, trempait la pointe de son pinceau dans une noisette de jaune poussin sur sa palette, puis dans un gobelet d'eau. Les enfants suivaient des yeux les traces jaunes qui se perdaient un peu plus loin dans l'étendue du lac. D'où venaient-elles? D'une herbe? D'une fleur? D'un insecte que les oiseaux auraient avalé? Ou, à l'inverse, était-ce dans le ventre des animaux que cette substance naissait, grossissait, pour ensuite se répandre dans la nature et infecter l'eau, la terre, toute la chaîne alimentaire? Il fallait suivre la piste jaune. Il fallait retrouver la source. Il fallait...
Le loupeau.
Pépin avait prononcé ces mots presque en pleurant. Les 13 enfants relevèrent la tête. D'un coup, ils oublièrent les poules d'eau mortes, les traces jaunes, la beauté des stalactites de la cascade. Tous firent instinctivement un pas en arrière, mais se retrouvèrent coincés entre la falaise, la cascade et le lac. Un cul-de-sac.
« Ce n'est pas le loupeau Nero !» fit Agnel d'une voix qu'il voulait assurer.
Elle ne l'était pas.
« C'est un loup !»
précisa-t-il. Même si tous les enfants avaient déjà compris. Un loup affamé. Le loup immobile observait les enfants à une dizaine de mètres devant eux, leur barrant toute possibilité de fuite. Agnel essayait de réfléchir le plus vite qu'il pouvait. En plus d'être affamé, le loup paraissait blessé, ou plutôt paraissait avoir été blessé, puis guéri. Une plaie cicatrisée courait de son cou à sa patte droite et une de ses paupières pendait. La bête sauvage les traquait du regard de son seul œil noir. Elle ouvrait lentement sa gueule, poils hérissés, crocs aiguisés, semblant avoir compris que les enfants étaient désormais la seule nourriture comestible de la forêt. Solario, Braza et Romagna avaient placé leurs bons en rempart, mais Agnel avait conscience que ces morceaux de bois ne serviraient à rien contre les crocs du fauve. Un enfant de 12 ans n'est pas de taille à lutter contre un loup adulte. Le monstre bandait ses muscles, prêt à bondir. Les enfants reculèrent encore, quelques centimètres, se tassant contre la falaise, sans se rendre compte qu'une telle promiscuité, au lieu de les protéger, les empêcherait plus encore de bouger, de se défendre, qu'ils deviendraient des proies plus faciles à piéger.
« Il faut se disperser, »
dit doucement Agnel.
« Courir droit devant. Le loup ne pourra pas nous attraper tous. Il en choisira un ou deux. » Et les autres pourront se sauver. »
Il avait raison, sauf qu'aucun enfant ne parvenait à bouger, tétanisé. Le premier qui s'avancerait serait sans doute celui qui se ferait dévorer. Avec de la chance, pendant que le loup l'égorgerait, les autres pourraient passer. Mais qui oserait se sacrifier? Aucun garçon, aucune fille ne parvint à esquisser le moindre geste. Ce serait donc le hasard qui déciderait lequel des enfants serait déchiqueté, puis dévoré cru. Ce serait donc le loup qui choisirait. Il n'était pas cruel, il avait seulement faim. Il ne jouerait pas avec sa proie, il se contenterait de traîner le corps ensanglanté de l'un des leurs jusqu'à sa tanière pour fournir de la chair fraîche à sa louve, ses louveteaux, sa meute. Le loup les fixa une dernière fois, prit appui pendant une seconde sur ses pattes arrière, puis d'un saut gigantesque, gueule ouverte, crocs luisants, bondit vers les enfants.